Bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir en cette journée agréable et plaisante. Êtes-vous dans la bonne église? Normalement, ce serait une question rhétorique, mais je veux que vous y réfléchissiez aujourd'hui. Êtes-vous dans la bonne église? Demandez-vous, suis-je dans la bonne église? Christ a soulevé le sujet avec ses disciples. Il était à Césarée Philippe, et à ce stade, cela faisait environ 3 ans depuis le début de son ministère. Il avait voyagé tout autour, fait beaucoup, beaucoup de choses, et à ce point, il n'avait jamais vraiment dit qui il était. Alors qu'il parlait avec ses disciples et leur demanda, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Alors toutes sortes de théories ont commencé à planer autour de sa personne. Il y avait des gens qui pensaient qu'il était un Jean-Baptiste ressuscité. Vous vous souvenez donc qu'à ce stade, Jean-Baptiste avait été décapité. Il était mort et les gens pensaient, oh, il est Jean-Baptiste de retour d'entre les morts. Certaines personnes pensaient qu'il était Élie. Ils ont compris qu'Élie serait de retour à un certain point de la prophétie. D'autres pensaient même qu'il était Jérémie. Jérémie était le prophète qui pleurait, et peut-être une partie de ceux qui l'ont vu dans la vie du Christ, pensait-il, vous savez quoi? Voici Jérémie. Donc, toutes sortes de théories circulaient et les gens essayaient de cerner cela, qui est cet homme? Alors à ce moment-là, Christ a regardé ses disciples, et a dit, qui dites-vous que je suis? Nous savons ce que les gens disent, mais qui dites-vous que je suis? Et Pierre a cloué la chose. Il avait vu juste. Il dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Il avait donc bien compris. Et bien sûr, les autres disciples le savaient aussi. Alors Jésus a dit quelque chose d'une importance absolue. Allons voir cela, Matthieu 16. Matthieu 16, nous allons aussi voir pourquoi Christ a choisi Césarée Philippe comme décor de cette conversation. Matthieu 16, nous le prendrons au verset 17. Matthieu 16, 17, si vous regardez le verset 16, vous verrez que Pierre vient de reconnaître qui était Christ. Ainsi au verset 17, et Jésus répondit et leur dit, Bienheureux sois-tu, Simon Barjona Barjona, dans la version King James, signifie simplement fils de Jonas. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, Simon, vous n'avez pas compris que j'étais le Fils de Dieu par vous-même. Tu as eu de l'aide. Mon Père vous l'a révélé. Maintenant, en effet, c'est une preuve que l'Esprit de Dieu travaillait avec ces hommes. Travaillait avec Pierre spécifiquement, travaillait aussi avec les disciples. Mais Jésus, comme je l'ai dit, à ce moment-là, n'avait pas révélé qui il était, donc la seule façon pour Pierre de le savoir, c'était que le Père devait le lui révéler. Ensuite, Christ leur a révélé une connaissance de plus. Verset 18, Et moi, je te dis que tu es Pierre, ce qui signifie un petit rocher, et sur ce rocher, le rocher, là, signifie un rocher massif, je bâtirai, quoi? Mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc, 2000 ans plus tard, ce verset signifie encore plus qu'il ne l'était à l'époque lorsqu'il a été prononcé pour la première fois. Quand Christ leur a dit, en ayant cette conversation à Césarée Philippe, il pointait du doigt un énorme rocher. Il y a un affleurement massif à cet endroit. Il faisait donc le point, Pierre, tu es un petit rocher, mais sur ce rocher énorme et massif, je vais construire mon église. Et bien sûr, Christ parlait de lui-même. Il allait construire son église sur lui-même, mais Christ a décrit ce qu'il allait construire comme une seule entité. Il a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit qu'il construirait ses églises. Je construirai mon église, une entité. Et chose intéressante. Il a lié le bâtiment de sa seule église à la connaissance de sa véritable identité, Alors ne laissons pas échapper ce point. Christ a dit qu'il construirait une seule église, et qu'elle ne mourrait pas. Il a déclaré que les portes de la tombe ne prévaudraient pas contre elle. Cela signifie que les portes de la mort ou la mort ne dominera pas cette entité que je vais construire. Je vais construire cette église et elle sera là. Et restera là. Elle ne disparaîtra pas. Donc 20 siècles plus tard, 2000 ans plus tard, ce que Christ a construit doit être quelque part sur cette planète. Cela doit être quelque part sur Terre. Il le faut, a-t-il dit. Les portes de la tombe ne prévaudraient pas contre elle, la mort ne la supplantera pas. Donc, elle existe toujours. Je reviens donc à ma question initiale, êtes-vous assis dans cette église? Cette église que Christ dit qu'il construirait, êtes-vous assis dans celle-ci? Suis-je assis dedans? C'est une question puissante. C'est vraiment une question où je ne veux pas me tromper. Je suis sûr que vous tous ne voulez pas vous tromper. Il y a trop de choses en jeu, c'est donc une question à laquelle nous ne devons pas nous tromper. Christ a dit qu'il construirait une église qui ne mourrait pas, donc il doit y avoir un moyen de l'identifier. Sinon, vous savez, Pierre, je vais construire cette église contre laquelle les portes de la tombe ne prévaudront pas, mais je ne vais pas vous donner la moindre idée de comment la trouver. Sachez juste que qu'elle est quelque part par là. Bien sûr que non. Il doit y avoir un moyen d'identifier cette entité que Christ a dit qu'il construirait et qui ne disparaîtrait jamais. Mes frères, aujourd'hui, je vais vous montrer deux façons d'identifier l'Église de Dieu. Maintenant, probablement chaque conseil de baptême que j'ai fait ou dont j'ai fait partie, j'explique ce qui suit, il y a trois choses. En tant que membre potentiel qui est intéressé par le conseil de baptême, que vous devez prouver. Et nous les qualifions de trois piliers, nous disons donc, 1. Vous devez prouver que Dieu existe. Vous devez prouver que la Bible est sa parole, et vous devez prouver que l'Église rétablie de Dieu, est sa seule véritable Église. Maintenant, à ce stade, cette personne étant présente, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'elle doit prouver dès le premier jour, lorsqu'elle a commencé à venir avec nous. Ils peuvent commencer à venir avec nous. Ils sont intéressés et ils apprennent de plus en plus, mais il arrive un moment où il est temps pour le baptême où ils doivent prouver, ils devront avoir prouvé ces trois choses. Et nous continuons ainsi dans le conseil et nous expliquons comment la littérature peut les aider à les prouver, et la Bible, bien sûr, les aiderait à l'éprouver. Nous les conseillons, répondons aux questions pour les aider à prouver ces trois piliers. Et finalement, nous avertissons la personne, nous la prévenons que ces trois piliers vont être attaqués à un moment donné. Tous les trois, ces trois piliers seront soumis à une sorte de traumatisme à un moment donné, cependant, l'un de ces trois, tout comme nous leur expliquons, l'un de ces trois va être attaqué plus que n'importe lequel des deux autres et de loin. Maintenant, lequel diriez-vous qui serait le plus attaqué? Eh bien, c'est facile. Est-ce l'Église de Dieu? C'est facile. Il est plus difficile d'éloigner les gens de l'existence de Dieu. Vous savez, la plupart des gens disent, eh bien, je crois en Dieu. Même les personnes qui ne sont pas appelées le disent. Mais il est plus difficile d'éloigner une personne, ou d'ébranler sa foi en ce qui concerne l'existence de Dieu, même si certains nous ont quitté l'Église de Dieu rétablie, et ne croient plus en Dieu. C'est donc possible, c'est possible, mais il est plus difficile d'éloigner une personne de l'existence de Dieu. Et les gens continueront généralement à dire, vous savez quoi? Oui, la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, il pourrait dire, c'est moi et Jésus, vous savez, c'est la Bible telle que je l'interprète. Mais la plupart des gens s'en tiendront à ce point que la Bible est la parole de Dieu. Mais ce pilier, cette chose qui retient toute la structure, celle qui est la plus abusée, qui subit le plus de traumatismes, celle qui est le plus ébranlée, c'est l'Église de Dieu restaurée. L'Église de Dieu. C'est en Latécra, c'est du monde Latécron, d'anciens amis Latécron, la famille Latécra, cette voix dans nos têtes Latécra. Est-ce l'Église de Dieu? Et si ce pilier est affaibli ou cassé avec succès, toute la structure s'effondre. Vous avez besoin des trois. Vous voyez donc pourquoi ma première question était si importante, êtes-vous, suis-je, dans la bonne Église? Alors, frères, nous devons, bien sûr, fortifier ce pilier le plus important de notre réflexion. Maintenant, avant de parler des deux façons d'identifier l'Église de Dieu, parlons un peu de la raison pour laquelle la vraie Église de Dieu n'est souvent pas reconnue. Pourquoi les gens ne savent pas ce que ce n'est ni à quoi ça ressemble? Et cela est lié à la conversation que Christ a eue avec Pierre à Césarée Philippe. Veuillez tourner vers Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, nous irons au verset 44. Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi, disait Christ, si ce n'est le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il y a donc une raison spécifique par laquelle les gens sont capables d'identifier l'Église de Dieu. Descendons au verset 65. Jean 6, 65. Et il dit, Christ encore, c'est pourquoi, je vous le dis, nul ne peut venir à moi, s'il ne lui a été donné par mon Père. Il faut donc qu'il vous soit révélé, la façon d'identifier l'Église de Dieu. En fin de compte, cette révélation vient du Père. Vous pouvez penser à Pierre. Christ a dit que la chair et le sang ne vous l'avaient pas révélé. La chair et le sang ne vous ont pas dit qui je suis. Mon Père vous l'a révélé. Et le Père l'a fait par son esprit. Donc, beaucoup de gens, au cours des 2000 dernières années, comme nous l'avons vu dans Actes, M. Armstrong, par exemple, rencontreraient de nombreux rois, des politiciens et des gens bien. Ils entreraient en contact avec l'Église de Dieu, ou ceux de l'Église de Dieu, et ne réalisaient pas avec quoi ils étaient entrés en contact. Ils ne le savaient tout simplement pas. Cela ne leur a pas été révélé. Ils ne comprenaient pas exactement ce qu'ils voyaient, exactement avec qui ils étaient entrés en contact. Ils voyaient l'Église de Dieu et ceux de l'Église de Dieu, comme, oh, c'est un, vous savez, ils ont l'air chrétiens, en quelque sorte. Leur doctrine est un peu étrange, et je pense qu'ils croient en Dieu, peut-être en Christ et la décrivent simplement comme une autre petite secte chrétienne, ne reconnaissant pas qu'ils sont entrés en contact avec ceux de la seule véritable Église de Dieu. Ils ne le savaient tout simplement pas. Ils n'en avaient aucune idée. Il est donc intéressant de voir que lorsque vous le regardez de cette façon, que les gens peuvent entrer en contact avec l'Église de Dieu sans même le savoir, cela devient en quelque sorte un moyen de l'identifier. Maintenant, ce n'est pas l'un des deux, mais cela devient un moyen de l'identifier. Il vole sous le radar. L'Église de Dieu vole sous les radars. Les gens ne savent pas très bien ce qu'ils ont rencontré. Ils ne savent pas vraiment avec quoi ils sont entrés en contact. Et mon point principal pour que nous comprenions tout ce qu'il doit être révélé, c'est que les deux choses dont je vais parler aujourd'hui, ne doivent pas simplement être comprises sur la base de la logique et de la raison. La logique et la raison en font partie, mais elles ne doivent pas être simplement comprises, ou uniquement comprises sur la base de la logique et de la raison. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons comprendre exactement les deux points que nous allons couvrir. Maintenant, j'ai dit qu'il y avait deux façons d'identifier l'Église de Dieu. Des réflexions sur ce qu'elle pourrait être? Pensez-y. Des pensées? Nous pensons probablement à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées pour identifier l'Église de Dieu. Je suis sûr qu'elles clignotent toutes dans votre esprit. Mais ces deux choses que je vais couvrir, ou dont je parle, le couvrent assez bien. Des pensées? Tournez vers 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3, nous lirons le verset 15. 1 Timothée, Chapitre 3 et verset 15. Mais si je m'attarde longtemps, afin que vous sachiez, que, vous devez vous comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, le pilier et le fondement de la vérité. Ainsi, l'église du Dieu vivant est considérée comme le pilier et le fondement de la vérité. Pilier et fondement signifie soutien et fondement, ce pilier est le fondement sur lequel il repose. L'église de Dieu est donc le pilier et le fondement de la vérité. Pensez à ce dont nous avons parlé concernant les conseils de baptême. Ces piliers doivent être construits. Dans ce cas, la vérité et l'église de Dieu sont inextricablement liées. Donc, la seule chose que l'église de Dieu possède et qu'aucune autre église ne possède, c'est sa vérité. Maintenant, les gens nous contactent de temps en temps, et ils demandent une liste de nos croyances fondamentales. Quelle est cette liste que vous avez que je pourrais simplement lire et ensuite savoir exactement ce que vous croyez? Eh bien, nous ne le faisons pas. Nous ne donnons pas cela aux gens. Cela n'existe pas dans l'Église de Dieu restaurée, et cela pour une raison bien précise. Il y a d'autres raisons aussi de raison, mais l'une d'entre elles est la paresse. Quelle est votre Église? De quoi parle votre Église? Dites-moi. 5 minutes. Allez. Et hop, c'est fait. Non, cela ne fonctionne pas de cette façon. L'église de Dieu, ou l'église de Dieu restaurée, ne peut être réduite à une liste. Lesquelles choisirions-nous? Toutes les doctrines de Dieu sont importantes. Eh bien, je considère que celui-ci est important et je considère que celui-ci est important. Qui sommes-nous pour faire cela? Nous n'avons donc rien de tel. Via notre site web, nous ouvrons notre littérature et la Bible, et nous disons, vous savez quoi? Prouvez-le par vous-même. Voici toutes nos doctrines, et nous sommes là. Ce sont toutes les choses auxquelles nous croyons. Ce sont toutes les choses que vous devez prouver afin de prouver quel type d'organisation nous sommes. Mais l'Église de Dieu a des vérités fondamentales, et c'est ainsi que vous pouvez l'identifier. Veuillez vous tourner vers Jean 3, Jean, chapitre 3, verset 13. Jean, chapitre 3, verset 13. Et aucun homme n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, si une église, une organisation, ou une organisation religieuse vous dit que le ciel est la récompense pour celui qui est sauvé, vous pouvez la balancer. Ce n'est pas l'Église de Dieu et ne pourra pas l'être. Romains, chapitre 6, Romains, chapitre 6, Romains, chapitre 6, nous lirons le verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, quand un être humain meurt, il cesse d'exister. Donc, si une église vous dit que lorsque des hommes meurent, ils brûlent pour toujours dans un enfer n'a jamais, cela ne peut être l'église de Dieu. Vous pouvez la balancer. Ce n'est pas vrai. Mauvaise église. Exode, chapitre 20, Exode, chapitre 20, verset 4, Exode, chapitre 20. Verset 4, tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance avec une chose qui est au ciel au-dessus, ou qui est sur la terre en dessous, ou qui est dans l'eau sous la terre, tu ne te prosterneras pas devant eux, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'aux troisième et quatrième générations de ceux qui me détestent. Si vous entrez dans un bâtiment d'église, si vous allez sur leur site web, et que vous voyez des croix, vous voyez des statues, vous voyez toutes sortes d'images gravées que les gens adorent, qu'ils regardent, qu'ils portent autour de leur cou, ce n'est pas l'église de Dieu. Et cela ne peut être l'église de Dieu. Vous pouvez la balancer. Lévitique, chapitre 11. Lévitique, chapitre 11. Nous commencerons au verset 2. Lévitique, chapitre 11, verset 2, parle aux enfants d'Israël, disant, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a le sabot fondu, le pied fourchu, et qui rumine. Mais voici parmi ceux qui ruminent, ou ont le sabot fondu, ceux dont vous ne mangerez, le chameau, qui rumine mais n'a pas le sabot fondu, vous le considérez comme impur. Le daiman, de la taille d'un lapin, qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fondu, vous le considérez comme impur. Le lièvre, qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fondu, vous le considérez comme impur. Le porc, qui a le sabot fondu et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le considérez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas à leur cadavre, vous les considérez comme impurs. Telle est la doctrine des viandes propres et impures. Ils expliquent, avec des détails précis, comme je viens de le lire, des détails précis, les choses que nous devons et ne devons pas manger. C'est dans l'Ancien Testament, nous pouvons changer cela, Acte 10 prouve en effet que Dieu veut que cela soit toujours en vigueur. C'était la vision de Pierre, vous vous en souvenez. Cela prouve en fait que cette doctrine des viandes propres et impures est toujours en vigueur. Donc, toute organisation, toute église, toute entité religieuse vous disant que vous pouvez manger ce que vous voulez, ne peut être l'église de Dieu. Ce n'est pas possible. Revenons à l'Exode 20. Vous voyez ce que je fais, mes frères. Nous allons juste en bas de la ligne. Tout au long de la ligne. Exode 20, nous le reprendrons au verset 8. Exode 20, verset 8, j'aurais pu commencer ici avec celui-ci en particulier. Exode 20, verset 8, souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. Vous travaillerez 6 jours et vous ferez tout votre travail, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez aucun travail, vous, ni votre fils, ni votre fille, votre serviteur, ni votre servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. L'Église de Dieu, où qu'elle soit, observe le sabbat. Toute organisation vous disant que le sabbat est tout sauf le 7e jour de la semaine, et vous savez tous à quoi ressemble un calendrier, et vous regardez les jours et vous comptez les jours et vous arrivez à 7, toute église, toute entité religieuse vous disant que le sabbat est autre chose que le 7e jour, vous pouvez la rayer de votre liste. Ce n'est pas l'église de Dieu. Franchement, que l'on élimine, cette liste est trop petite. Votre liste est devenue beaucoup plus petite. C'est pourquoi j'ai dit que j'aurais pu commencer avec celle-ci. La plupart des églises se réunissent le dimanche sans savoir qu'elles annulent le sabbat de Dieu, parce qu'elles disent, vous savez quoi? Le dimanche est le sabbat. Ils n'ont aucune idée qu'ils font tout ce qu'ils veulent faire le jour du sabbat de Dieu, le samedi. La journée attrape tout, le jour que vous aurez pour terminer toutes vos tâches. Les gens savent, oh, c'est mon jour où je fais tout ce que je veux. Le contraire de ce que ce jour est censé être. Tout religieux, tout homme de Dieu se tenant devant vous en vous disant que le sabbat est autre chose que le 7e jour, n'est pas un homme de Dieu, pas un homme du véritable Dieu. Lévitique 23, Lévitique, chapitre 23, je ne lirai pas tout, mais Lévitique 23 couvre les jours saints de Dieu. Alors bien sûr, vous avez la Pâque, les jours des pains sans levain, la Pentecôte, les trompettes, l'expiation, la fête des tabernacles, le dernier grand jour, toutes ces choses sont traitées dans ce chapitre. Dieu commande que nous gardions ces jours saints. Si une église, une organisation religieuse, une entité religieuse célèbre Noël, le Nouvel An, Halloween, aucun de ces jours ne sont de l'Église de Dieu. S'ils disent, eh bien, vous savez quoi? Ces jours-là, ce n'est pas grave. C'est pour les enfants. Ils sont innocents. Cela va. C'est faux. Dieu n'est pas silencieux ces jours-là. C'est en fait là-dedans, et Dieu ordonne que ces jours ne soient pas observés, Les vacances des hommes ne doivent pas être gardées. Et en plus de cela, il dit de garder mes jours saints. Ainsi, l'Église de Dieu garde clairement ses jours saints. Jean, chapitre 1, Jean, chapitre 1, vous voyez pourquoi nous n'avons pas cette liste de croyances fondamentales. J'ai dû en choisir quelques-uns pour le message. Jean, chapitre 1, nous lirons les deux premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, deux êtres y étaient décrits. Si une Église décrit Dieu comme trois en un, également connu sous le nom de Trinité, ou si cette organisation fait du Saint-Esprit, en effet, une personne, alors elle sert le mauvais Dieu. Ils n'ont pas le bon Dieu. Ce Dieu existe, mais c'est un faux Dieu. Le vrai Dieu est deux êtres, le Père et la Parole, ou le porte-parole. Maintenant, la Parole, ou le porte-parole, est devenu Christ. Deux êtres, pas trois. Dans de nombreux versets, vous le voyez dans les Épîtres en particulier, lorsqu'il est parlé de Dieu, il est décrit comme le Père de Christ, rien sur le Saint-Esprit. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas une personne. Jean 17, Jean 17, verset 11. Jean 17, 11. Christ parlant, « Et maintenant je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je viens vers vous. Saint-Père, garde par ton propre nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom, ce que tu m'as donné, je les ai gardés, et aucun d'eux n'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Et pas moins de 12 fois, nous voyons l'Église de Dieu appelée l'Église de Dieu. Elle devait être conservée au nom du Père l'Église de Dieu. Nous l'avons vu plus tôt dans 1 Timothée 3 verset 15, alors qu'il décrivait le pilier et le fondement de la vérité, qui est l'Église du Dieu vivant. Contrairement aux églises de ce monde, qui ont toutes sortes de noms très créatifs, qui sait d'où ils les trouvent. Je suis sûr qu'ils vont en profondeur et qu'ils ont probablement des séances de brainstorming. Mais au lieu de ces créatifs, et certains d'entre eux sont créatifs, certes, mais au lieu de ces noms aléatoires créatifs, l'Église de Dieu est identifiée comme l'Église de Dieu. Ça doit l'être. Ça y est écrit. Lorsque vous pensez à l'Église mondiale de Dieu, ou à l'Église de Dieu restaurée, restaurée est dans le nom entier, et c'est là parce qu'il y a un élément corporatif. Vous devez être en mesure de différencier l'organisation, mais à l'intérieur de ce titre, à l'intérieur de ce surnom se trouve l'Église de Dieu. Toute Église qui prétend être l'Église de Dieu qui ne le fait pas ne respecte pas la norme. Cela ne correspond pas au projet de loi. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Éphésiens, chapitre 5, verset 3, « Mais la fornication, et toute impureté, ou convoitise, qu'il ne soit pas une fois nommé parmi vous, en tant que saint, donc au sein de votre groupe, au sein de vos rassemblements, ces choses ne doivent pas être nommées. » Verset 4, « Ni saleté, ni bavardage, ni plaisanterie, qui ne sont pas commodes, mais plutôt des remerciements. » Toute église. Toute entité religieuse qui autorise ce genre de comportement, que je viens de lire, ouvertement et ne fait rien à ce sujet, ne peut être l'Église de Dieu. C'est impossible. Que ce soit par ses dirigeants, que ce soit par ses membres, toute personne associée, qui appelle cette entité leur Église et qui est autorisée à le faire, ne peut pas être l'Église de Dieu. Les églises du monde tolèrent ce genre de choses. Dans certains cas, ils en font la promotion. Pensez à la convoitise, regardez combien de voitures j'ai, regardez combien de robes j'ai, ou combien de beaux costumes que j'ai dans mon placard. Dieu m'a béni. Quiconque fait ces choses ouvertement, dans une organisation qui est prétend être l'Église de Dieu, sera renvoyé. Peut-être pas pour toujours, si tout va bien pas pour toujours, mais ils devraient être appelés. Il faudrait les retirer, au moins pendant un certain temps, pour qu'ils puissent comprendre que ce qu'ils font est mal. Ça ne va pas bien. Et avec un peu de chance, ils pourront revenir en arrière, se repentir et se détourner de ces choses. Mais ces choses ne pourraient pas, être ouvertement promues ou autorisées dans toute entité qui prétend être l'Église de Dieu. Frères et sœurs, je pourrais citer bien d'autres vérités. Nous en avons traversé plusieurs. Nous pourrions parler du fait que Dieu se reproduit. Toute entité qui prétend être l'Église de Dieu doit comprendre de quoi il s'agit, quel est le plan directeur de Dieu pour l'humanité et son but entier pour créer l'humanité. Toute entité prétendant être l'Église de Dieu devrait le savoir. S'ils ne le font pas, alors ce ne peut pas être l'Église de Dieu. J'aurais pu parler d'unité et d'amour fraternel. L'Église de Dieu doit avoir l'unité. Il faut que tous soient sur la même page. Il faut qu'il y ait de l'amour fraternel. Le genre qui serait différent de celui d'autres entités prétendant être des églises. Et vous pensez à une église, qui est souvent là où il y a le plus de divisions, de bêtises, de médisances, de coups de poignard, de commérages, c'est juste, horrible. C'est pourquoi les gens ne veulent pas aller à l'église. Pourquoi ? J'aurais pu parler de ne pas voter ou de ne pas participer au gouvernement de ce monde, ni de s'engager dans les armées des hommes. Toute église qui le permet, le promeut, amène des politiciens en chair pour traire les frères, ou traire leurs membres, votez pour moi. Je vais changer ta vie. Je vais baisser vos impôts, peu importe. Toute entité ou organisation religieuse qui permet que cela se produise ne peut être l'Église de Dieu. C'est impossible. Obliger les gens à respecter la loi. Oh, la loi est abolie. Toute entité ecclésiastique, toute organisation religieuse, si vous comprenez, quelque chose prétend être associé à Dieu qui ne comprend pas que Dieu vous oblige à lui obéir, à obéir à sa loi quel père ne voudrait pas que ses enfants lui obéissent. De toute évidence, celui qui n'y pense pas n'y pense pas. Tous parents voudraient que leurs enfants leur obéissent. Mais d'une manière ou d'une autre, les entités religieuses, les organisations, les soi-disant églises, se sont permis de croire que vous n'avez même pas à obéir à Dieu, Christ l'a fait pour moi. Frères et sœurs, ces doctrines dans la Bible sont si claires. Il faudrait être aveugle, trompé, pour ne pas les voir. Toute organisation qui ne les suit pas ne peut pas être l'Église de Dieu. C'est aussi simple que cela. Toutes ces vérités forment une certaine liste de contrôle. Vous savez, vous avez sorti votre liste et d'accord, je vais voir si je peux trouver l'Église de Dieu. Où est cette entité dont Christ a dit qu'elle serait toujours là? Il allait la construire, les portes de la tombe, la mort, ne peuvent la dominer. Cela doit être quelque part sur cette planète. Ça doit être. À l'ère de l'information, c'est plus facile que jamais. Je peux sûrement entrer en contact avec cette entité qui, selon Christ, serait toujours là. Où est-ce? J'ai ma liste. Pas de paradis. Ok. Pas d'enfer éternel brûlant. Ok. Observe-t-il le sabbat? Ok. Les jours fériés des hommes, les jours saints de Dieu. Ok. Pas d'idole. Ok. Servent-ils un cocktail de crevettes et des côtelettes de porc à leur pique-nique? Ok. Ces doctrines, frères, se combinent toutes pour former un composite de ce à quoi ressemble l'Église de Dieu. Cela nous aide à identifier où il se trouve. Cela doit exister. Christ ne nous dirait pas qu'il existerait toujours et ne nous donnerait aucun indice sur la façon de le trouver, ni de savoir si nous y sommes. Comment s'attendrait-il à ce que nous fassions cela? L'Église de Dieu a sa vérité, et c'est ainsi que vous l'identifiez. C'est l'une des façons dont vous l'identifiez. Maintenant, frères, J'ai ici un encart que je vais inclure, et je le mets ici pour vous aider tous. Je vous le demande ou, je vous le dis, ne laissez pas notre récente recherche de prophétie vous tromper sur cette question de savoir si c'est la vraie Église de Dieu. Ne laissez pas cela vous faire trébucher. Je ne peux permettre que cela me fasse trébucher. Vous savez, cette récente quête de prophétie, nous essayons de comprendre les choses, ne laissez pas cela vous dérouter ou vous faire trébucher pour savoir si c'est la vraie Église de Dieu. Comprenons la pensée de Dieu. Veuillez aller à Ésaïe 42. Ésaïe 42, comprenons la pensée de Dieu. Ésaïe 42, nous allons le prendre au verset 8. Ésaïe 42, verset 8, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mes louanges aux images gravées. Et nous l'avons entendu plus tôt. Voici, les choses anciennes sont arrivées, et je déclare de nouvelles choses, avant qu'elles ne jaillissent, je vous en parle. Ainsi, frères, nous lisons que Dieu est l'auteur de la prophétie, et la prophétie est l'histoire écrite à l'avance. Alors Dieu prédit les événements avant qu'ils ne se produisent. Ésaïe 46, Ésaïe, chapitre 46, nous le prendrons au verset 9. Ésaïe 46, verset 9, souviens-toi des anciennes choses, car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre, je suis Dieu, et il n'y a personne comme moi, déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens les choses qui ne sont pas encore faites, disant, mon conseil se tiendra et je ferai tout mon plaisir, en d'autres termes, je suis Dieu et vous ne l'êtes pas. Dieu lit sa prérogative, la façon dont il choisit de faire les choses, directement à la prophétie. La Bible est pour un tiers de la prophétie. Nous l'avons entendu à de maintes reprises, frères. La Bible est un tiers de prophétie, et nous devons vraiment comprendre comment cela fonctionne. Nombre, chapitre 12, Nombre, chapitre 12, je me souviens avoir été surpris quand j'ai lu ceci et vraiment ralenti et regardé. Il parle des volumes. Nombre, chapitre 12, nous allons lire quelques versets ici. Il s'agit de Dieu dans une situation où Moïse est traité, et Myriam et Aaron. Et nous le reprendrons dans le verset 6. C'est Dieu qui parle et il dit, écoutez maintenant mes paroles, s'il y a un prophète parmi vous, moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui dans une vision, et je lui parlerai dans un rêve. Mon serviteur Moïse n'est pas ainsi, qui est fidèle dans toute ma maison. Voici le verset, avec lui, je parlerai de bouche à bouche, même en apparence, et pas par des énigmes je me souviens quand mes yeux sont tombés là-dessus. Il voit une ressemblance de l'Éternel, pourquoi donc n'avais-tu pas peur de parler contre mon serviteur Moïse? Donc, Dieu est, juste devant nous, révélant qu'il parle parfois, et apparemment plus souvent qu'autrement, parce qu'il dit que Moïse est l'exception, à ses prophètes, il parle par énigme. C'est étonnant. Dieu nous dit que c'est sa manière de communiquer les choses et clairement concernant la prophétie. Dieu est un cerveau. Il parle dans les mystères. 1 Corinthiens, chapitre 2, 1 Corinthiens, chapitre 2, permettez à ces quelques versets suivants de vous changer, frères. Changez votre façon de penser sur l'Esprit de Dieu et sur la façon dont Dieu communique avec son peuple concernant la prophétie et encore plus que cela, mais 1 Corinthiens, chapitre 2, nous le prendrons au verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6, nous lirons ici plusieurs versets. Je les ai marqués dans ma Bible. Ils sont, je pense, tout simplement très fascinants à comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6, mais nous parlons de la sagesse entre ceux qui sont parfaits, mais pas la sagesse de ce monde, ni celle des princes de ce monde, qui sont vaines, donc il y a des gens très intelligents dans le monde, frères. Des génies et des gens qui savent, ont toutes sortes de connaissances et ils sont indéniablement intelligents. Je veux dire, ils sont tout simplement géniaux. Mais ce n'est pas la sagesse dont nous parlons ici. Verset 7, mais nous parlons de la sagesse de Dieu dans un mystère, la sagesse cachée, vous savez ce que cela signifie, quelque chose de caché, que Dieu avait prédestiné avant les siècles, pour notre gloire, donc ce plan est en place depuis longtemps. Un long moment. Ce qu'aucun des princes de ce monde ne savait, car s'il l'avait su, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. S'il avait compris exactement ce que Dieu faisait, que ce soit par Christ ou comment il travaillait avec l'humanité, il n'y aurait aucun moyen qu'il aurait crucifié Christ. Mais cela aurait posé un problème. Nous n'aurions pas de sauveur. Nous n'aurions pas un être divin qui est mort pour nous. Verset 9. Mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni entré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Reconnaissez-vous ce que vous lisez, ce que vous venez de lire, frère? Cette poursuite de la prophétie, et essayez de comprendre exactement ce qui va se passer, dit-elle, à un moment et franchement pour la majorité de l'existence de l'humanité, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ni n'est même entré dans le cœur ou la pensée de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. C'est tout, c'est ce dont nous parlons depuis plusieurs années, toutes ces choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, mais écoutez ceci, mais Dieu, et c'est puissant, mais Dieu a nous les a révélées par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, oui, les choses profondes de Dieu. Pensez aux choses profondes de Dieu. Nous sommes attirés, dans ce processus, nous sommes attirés dans l'Esprit de Dieu, et c'est un endroit complexe. C'est un endroit complexe à vivre. Ce n'est pas facile à comprendre. C'est Dieu, c'est son Esprit. Ce n'est pas un endroit facile à naviguer. Nous devons le faire, la seule chance que nous avons est que son Esprit travaille avec nous et nous révèle des choses, nous montre et nous aide à comprendre les choses que nous voyons. Sinon, nous n'aurions absolument aucune chance. L'Esprit de Dieu est tout simplement trop grand. C'est trop vaste. C'est juste trop. Ésaïe 28, reprenez le haut verset 9. Ésaïe 28, verset 9, à qui enseignera-t-il la connaissance? Et à qui fera-t-il pour comprendre la doctrine? Ceux qui sont sevrés du lait, et tirés des seins. Car le précepte doit être sur le précepte sur le précepte, ligne sur ligne, ici un peu, et là un peu, car avec des lèvres balbutiantes et une autre langue, il parlera à ce peuple. À qui il a dit, voici le reste avec lequel vous pouvez faire reposer les fatigués, et c'est le rafraîchissant, pourtant ils n'entendaient pas. Mais la parole de l'Éternel était pour eux précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ici un peu, et là un peu, afin qu'ils puissent aller, tomber en arrière, être brisés, pris au piège et pris. Que lisons-nous? La parole de Dieu peut être complexe. C'est écrit ici un peu, là un peu, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Vous devez regarder tout le livre. Vous devez rassembler tous les versets. Vous ne pouvez en laisser de côté. Vous ne pouvez en laisser de côté. Je ne peux pas faire cela non plus. Sinon, nous reculons et nous trébucherons parce que c'est tellement difficile d'essayer de faire tourner la tête. Voilà pour essayer de comprendre. C'est gros. C'est énorme. Dieu écrit des choses qui sont difficiles à comprendre et, frère, nous devons y faire face. Humainement, on pourrait dire, ce n'est pas juste. Dieu ne devrait pas l'écrire de cette façon. Il devrait l'écrire de manière que je puisse le comprendre et c'est facile. Ce n'est pas juste. Eh bien, il est Dieu et nous ne le sommes pas. Et si vous y réfléchissez bien, il devait l'écrire de cette façon, sinon, les princes du monde pourraient le ramasser et hop. D'accord. C'est ce que Dieu fait. Il saurait exactement ce qui se passe. Elle ne devait pas être révélée avant un certain temps. Le but de Dieu était de cacher le sens, et comment pourriez-vous cacher le sens autrement que d'écrire d'une manière difficile? C'est difficile à comprendre. Même un être humain saurait le faire. Ils écrivent des codes. Vous savez, vous avez entendu parler de codes, et pendant la guerre, il y a certains codes que les Allemands ou les forces alliées utilisaient pour en cacher le sens. Ils l'écrivaient d'une manière que vous deviez déchiffrer, et vous deviez comprendre exactement ce que cela signifiait. Les êtres humains savent faire cela. Bien sûr, Dieu le ferait de cette façon si son intention était de cacher le sens. Bien sûr, il le ferait de cette façon. Dieu veut le révéler en son temps. Frères et sœurs, ne voyez pas, et je vous demanderai, et je dois me le dire, ne voyez pas de faux positifs en termes de date peut-être que nous regardions, ou de moment où nous regardions le retour de Jésus-Christ. Ne regardez pas ces faux positifs comme si nous étions en quelque sorte hors piste. Ce n'est pas ce que cela signifie. Cela ne signifie pas que nous soufflons d'une manière ou d'une autre de la vérité de Dieu parce que nous essayons de comprendre le mystère exactement ce que Dieu fait. Gardez le cap. L'Église de Dieu a sa vérité. Gardez le cap. Oui, c'est un processus difficile. C'est un processus difficile. Mais pensez que vous allez sauter de la poêle de ce processus difficile, et entrer dans le feu de ce monde, cela n'en vaut pas la peine. Ça ne vaut pas le coup. Gardez le cap. Galates, chapitre 6, Galates, chapitre 6, Galates, chapitre 6, nous le prendrons au verset 7. Galates, chapitre 6 et verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème à l'esprit moissonnera de la vie éternelle. » Et voici le verset clé, « Et ne nous laissons pas de bien faire, car en temps voulu, nous récolterons, si nous ne nous relâchons pas. » Frères et sœurs, n'abandonnez pas le navire. Certains l'ont fait, quelques-uns l'ont fait, pas beaucoup. N'abandonne pas le bateau. Nous pouvons avoir certaines tempêtes que nous devons combattre, mais je vous le dis, nous avons le bon bateau. Nous sommes dans le bon bateau. Les choses se balancent. Si vous avez déjà été dans un bateau, il y a du mouvement. Mais nous avons le bon bateau. Restez dedans. Ne tanguez pas sur le côté du bateau, et ne sautez pas parmi les requins. Jean, chapitre 6, Jean, chapitre 6, frères, soyons comme Pierre. Jean, chapitre 6, ces deux versets suivants sont très personnels. Je suis sûr qu'une fois que vous les voyez, peut-être que vous les avez déjà vus, vous diriez la même chose, mais très personnel, très chaleureux. Jean, chapitre 6, nous le reprendrons au verset 65. Jean, chapitre 6, verset 65. Nous avons commencé ici plus tôt, mais nous lirons un peu plus loin. Jean 6, 65. Et il dit, « C'est pourquoi je vous ai dit, c'est Christ qui parle, qu'aucun homme ne peut venir à moi, s'il ne lui a été donné par mon Père. » Vous vous souviendrez que nous l'avons lu. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples sont retournés et n'ont plus marché avec lui. Donc apparemment, pour certains, c'était tout simplement trop. C'était trop. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous aussi vous en aller? Partirez-vous également? » Alors Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Vous avez les paroles de la vie éternelle. » Frère très personnel. Pierre a dit, « Je n'ai nulle part où aller. Il n'y a nulle part ailleurs où aller, Seigneur. » Comme Pierre, frère, j'ai mis tous mes œufs dans ce panier. Je suis sûr que vous tous, beaucoup d'entre vous, diriez exactement la même chose. J'ai mis tous mes œufs dans ce panier. Je n'ai pas de plan de sauvegarde du salut. Si cela ne marche pas, j'ai mis tous mes œufs dans ce panier. Je n'en ai pas d'autre, une sorte de plan de poche, oui, d'accord. Cela ne fonctionne pas, je vais peut-être simplement retirer celui-ci et voir comment cela se passe. Non, c'est drôle, mais vous avez tout, vous avez tous dit, j'en suis sûr, exactement la même chose. Comme Pierre, je n'ai nulle part où aller. Nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Donc, je me repose sur le fait que l'Église de Dieu a sa vérité. Cela me réconforte. Cela vous apporte du confort à tous. Maintenant, j'ai dit qu'il y avait deux choses qui identifient l'Église de Dieu, et nous avons identifié l'une d'entre elles comme la vérité. L'Église de Dieu a sa vérité. Maintenant, quelle est l'autre? Quelle est l'autre chose que l'Église de Dieu a qui la rend unique de toutes les autres organisations de la planète? Eh bien, je vais vous donner un indice. Je suis sûr que vous aimez les indices. Je vais laisser cela un peu accrocher un peu. Je vais vous donner un indice. Monsieur Armstrong a dit que c'était tout. L'autre façon d'identifier l'Église de Dieu est par son gouvernement. L'Église de Dieu a son gouvernement. La Bible est un livre de gouvernement. C'est un livre sur le gouvernement. Veuillez vous tourner vers Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1, Marc, chapitre 1, un verset très familier. Marc, chapitre 1, verset 15. Voici Christ, et disant, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Alors, quel est l'Évangile, frère? L'Évangile est le royaume de Dieu à venir. Le royaume est égal au gouvernement. On peut aussi dire que le royaume de Dieu est le gouvernement de Dieu. Donc, le message crucial de Dieu, le message crucial du Père qu'il envoie par l'intermédiaire de son Fils concerne le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu. Le gouvernement est partout dans la parole de Dieu. C'est écrit partout. J'aurais pu appeler cela une vérité et considérer dans une vérité, mais cela vaut la peine d'être séparé. Il vaut la peine de séparer le fait que le gouvernement de Dieu est un moyen d'identifier son Église. Il vaut la peine de le séparer du simple fait d'être une autre de ses précieuses vérités. Dieu a un gouvernement. C'est de haut en bas. L'Église de Dieu est verticale et non horizontale. C'est de haut en bas. La chose la plus proche que nous ayons à ce sujet humainement serait l'armée. Vous pensez au commandant et chef, il est assis au sommet de l'armée et il descend, à travers toutes les différentes positions, jusqu'à votre soldat, tout juste sorti du camp d'entraînement. Les hommes savent faire cela. Cela le rend intéressant. Cette analogie militaire, vous pouvez l'écrire, 2 Timothée 2 verset 3, nous appelle de bons soldats de Jésus-Christ. Il n'y a pas de coïncidence. Le gouvernement de Dieu est au-dessus de sa véritable Église. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Regardons ce gouvernement et qui compose l'ordre dans lequel il tombe. 1 Corinthiens 11. Nous allons simplement lire un verset. Je sais, mais je voudrais que vous sachiez que la tête de chaque homme est Christ, et la tête de la femme est l'homme, et la tête de Christ est Dieu. Nous voyons donc que c'est le Père. C'est Christ, alors c'est l'homme, alors c'est la femme. Éphésiens 6:1, pas besoin d'y tourner, il dit que les enfants sont sous les parents. Donc nous venons de voir, nous venons de lire où chaque être humain sur la planète s'inscrit dans le gouvernement de Dieu. Maintenant, qu'ils choisissent de le croire ou non n'a pas d'importance. Mais c'est là que chaque être humain à la surface de la planète relève du gouvernement de Dieu. Mais c'est le gouvernement à la maison. Mais qu'en est-il du gouvernement dans l'Église? Comment cela s'établit? Qu'en est-il du gouvernement dans l'Église de Dieu? Et si nous savons comment identifier le gouvernement dans l'Église de Dieu, C'est ainsi que nous identifions l'Église de Dieu. Toute organisation qui n'a pas le gouvernement de Dieu ne peut pas être l'Église de Dieu. Nous voyons maintenant que Christ s'est déjà établi comme le chef de l'Église. Il a dit, « Je bâtirai mon Église ». Et nous avons vu que le Père est le chef du Christ. Ce ne serait donc pas différent dans l'Église. Les deux premières positions ont donc déjà été prononcées, le Père et Christ. Veuillez vous tourner vers Éphésiens, chapitre 4. Qui est sous Christ dans l'Église? Éphésiens, chapitre 4. Et au fur et à mesure que nous passons par là, frères, demandez-vous continuellement quelle autre organisation, quelle autre entité religieuse la base enseigne même ces choses? Qui est même au courant de ces choses que nous lisons, sans parler de les enseigner aux gens? Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Et il en a donné, apôtres, et certains prophètes, et certains, évangélistes, et certains, pasteurs et enseignants, donc dans le gouvernement de Dieu, le Père est au-dessus, puis il y a Christ, et il y a le leader humain de Dieu tout au long des rangs du ministère. Maintenant, quel est le but de Dieu pour son gouvernement? Quel est son but? Continuons à lire. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, pour le travail du ministère, pour l'édification du corps, entité singulière, le corps du Christ, jusqu'à ce que nous venions tous dans l'unité de la foi, c'est un processus, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, le gouvernement de Dieu, à travers son ministère, joue un rôle vital avec le peuple de Dieu, avec son Église. Toute entité prétendant être l'Église de Dieu doit avoir son gouvernement. Cela a un but. Nous venons de lire son but. Si cette Église, la soi-disant Église, n'a pas le gouvernement de Dieu, alors ce but, en commençant par le Père en bas par Christ, ne peut pas être fait. Être membre du gouvernement de Dieu dans son ministère ne consiste pas seulement à être en charge des gens et à dire aux gens quoi faire. Tu vas faire cela. Vous faites cela. Ce n'est pas cela, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. 1 Corinthiens, chapitre 12. Examinons à nouveau le gouvernement de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous lirons le verset 27. 1 Corinthiens 12, 27. Maintenant, vous êtes le corps de Christ, et les membres en particulier. Et Dieu en a placé dans son Église, dans l'Église, les premiers apôtres, secondaires mains les prophètes, les troisièmes enseignants, et, après ces miracles, et, les dons de guérison, les aides, les gouvernements, et cela continue. Notez donc que Dieu a mis ces hommes en place. Ces hommes ne se sont pas mis en place. Dieu les a mis en place. Mais le point principal là-bas, c'est d'abord, deuxième, troisième. Cela montre que les rangs sont hiérarchiques. Toutes les positions ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas plat comme certains groupes dissidents le croient. Ce n'est pas plat. C'est le premier, le deuxième, le troisième, il y a de l'ordre. C'est hiérarchique. C'est de haut en bas. Il y a sept postes de direction dans l'Église de Dieu. Il y a un diacre, un ancien local ou un ancien de l'Église locale, c'est la même chose, un ancien prédicateur, un pasteur, un évangéliste, un prophète et un apôtre. Et c'est cette forme la direction de Dieu. C'était le nombre d'achèvements. C'est cette position représente collectivement le ministère du Christ. Donc, quand vous cherchez l'Église de Dieu, vous essayez de comprendre où est-elle, où est l'Église de Dieu sur cette planète. Parce qu'il doit exister, Christ a dit que ce serait toujours là. N'importe quelle entité que vous trouvez doit avoir ses positions, ou du moins reconnaître la signification et l'existence de ses positions. Toute entité qui ne fait pas cela ne peut pas être l'Église de Dieu. C'est impossible. La Bible est claire. Maintenant, Notez que si des sept rangs sont ici dans l'église de Dieu restaurée, ne laissez pas cela vous perdre. Le seul qui manque est le prophète. C'est le seul que nous ne voyons pas. Maintenant, nous attendons la venue d'un prophète, mais il n'y a pas de prophète vivant aujourd'hui. Maintenant, le mot prophète vient du mot grec prophès, et il signifie un prédicateur, un prophète, par analogie, un orateur inspiré, un poète. Un prophète est donc un homme inspiré, où il y a des exemples dans le Nouveau Testament de prophétesse. Ce sont ceux qui prédisent. Cela signifie qu'ils révèlent les choses à venir, et cela résume leur devoir. Essentiellement, un prophète est tout au sujet de prédire les choses à venir. C'est, en fait, l'ensemble de ce qu'ils font. C'est ce bureau, ce que ce bureau est censé faire. C'est leur principal devoir. Un prophète est comme un messager ou un facteur. Vous savez ce qu'un facteur. Un facteur apporte un message. Un facteur apporte le courrier. Et le message vient directement de la bouche de Dieu. C'est ce qui fait de lui un prophète. Prophète et apôtre sont deux rangs nettement différents. Deux offices très différents dans l'Église de Dieu. Ils ne sont pas les mêmes. Rappelez-vous, Éphésiens 4:11, il est dit qu'il en a donné, des apôtres, et certains prophètes. De rangs nettement différents. Ils ne sont pas ensemble. Ils sont séparés. Maintenant, un apôtre est le rang le plus élevé, décrit dans le Nouveau Testament. Cela vient du mot grec apostolo, et cela signifie un délégué, un ambassadeur de l'Évangile, officiellement un commissaire du Christ, avec des pouvoirs miraculeux, un messager, c'est intéressant, un messager, comme un prophète, celui qui est envoyé. Maintenant, un apôtre est le représentant personnel du Christ. C'est son délégué. Un apôtre est son délégué, son ambassadeur, son commissaire, son messager. Il porte l'autorité du Christ, et il est envoyé pour un rendez-vous spécifique. Maintenant, la vérité vient dans l'Église de Dieu par les apôtres. C'est la seule façon de traverser et d'entrer dans l'Église de Dieu. Parfois, les membres du corps peuvent voir quelque chose dans les Écritures, ils peuvent voir quelque chose, vous savez quoi? C'est intéressant. Cela ressemble à quelque chose que Dieu nous dit de faire. Et cela pourrait être le cas, mais à moins que cette vérité ne passe par un apôtre, par le bureau d'un apôtre, elle ne peut pas devenir une doctrine ou une croyance en l'Église de Dieu. Sinon, vous auriez de la confusion. Il doit passer par ce bureau, par le bureau d'un apôtre pour devenir la doctrine ou les enseignements officiels de l'Église. En fait, cela rend la tâche beaucoup plus facile. Cela le rend beaucoup plus facile à suivre et beaucoup plus facile à comprendre. Maintenant, les apôtres et les prophètes sont tous deux choisis par Dieu, et ils sont tous les deux des messagers, comme nous l'avons vu. Alors quelle est la différence? Ils sont tous les deux choisis par Dieu et ils sont tous les deux des messagers. Eh bien, un prophète transmet son message directement de la bouche du Christ. On lui parle et il le répète. C'est mot pour mot. On lui dit le message et il répète le message. Un apôtre, d'autre part, doit interpréter le mystère. Rappelez-vous le mystère? Il doit interpréter le mystère écrit dans les prophètes. Cet homme est donc un messager qui doit prendre ces paroles des prophètes et les interpréter. Il ne les reçoit pas à la bouche de Dieu de la même manière. C'est indirect, d'une manière indirecte, parce que Dieu l'a donné aux prophètes. Mais l'apôtre doit entrer et creuser et essayer d'interpréter exactement quelle est l'intention de Dieu en la matière. Selon vous, laquelle est la plus difficile? Laquelle est la plus difficile? Un prophète, une autre différence, un prophète est identifié par la réalité de ce qu'il dit. Donc, si un prophète dit que quelque chose qui vient de Dieu, et que cela arrive, Alors vous savez que c'est un prophète. Et un apôtre? Eh bien, un apôtre est identifié par ses fruits. Il n'est pas identifié de la même manière. Il n'est pas identifié de la même manière qu'un prophète. Un apôtre, cela prend du temps. Vous devez regarder et vous devez attendre les fruits. Et lorsque vous plantez un arbre pour la première fois, cela prend du temps. Vous ne voyez pas toujours l'arbre pour ce qu'il est. Mais au fil du temps, vous commencez finalement à voir le fruit et ensuite vous savez, oh, c'est un apôtre contre un prophète qui entend ce que Dieu va faire, cela arrive, c'est-à-dire un prophète. Laquelle diriez-vous qu'il faut plus de foi pour suivre et croire? Il était vide. Il était vide. Un apôtre n'est pas un prophète, deux fonctions distinctement différentes. Je me soumettrai et je ne pense pas que ce soit un tronçon que le travail d'un apôtre soit plus difficile. Et la raison pour laquelle je dis, je peux le dire avec confiance, c'est parce que c'est un rang plus élevé. C'est un rang plus élevé qu'un prophète. C'est plus difficile. Il est plus difficile. Un apôtre doit parcourir des versets pour comprendre. C'est un défi. Parfois, les apôtres interprètent mal. Demandez à Pierre. Demandez à Paul. Parfois, ils voient des choses et eux, ils le voient tellement qu'ils sont prêts à le dire et cela est écrit dans les Écritures, et voici, ce n'était pas tout à fait là. Ce n'était pas tout à fait là. On pourrait dire que l'apôtre final aurait le travail le plus difficile de tous. Pourquoi dis-je cela? Eh bien, il doit interpréter l'écriture sur la prophétie à l'époque la plus importante du point de vue prophétique de l'histoire humaine. Toutes les choses que Dieu dit qui va arriver, pas toutes, mais tant de choses que Dieu dit vont se produire à partir de maintenant dans l'éternité doivent être interprétées et comprises par l'apôtre final. Vous parlez de difficile. Nous l'avons tous vécu. Nous en sommes là. Nous en sommes là. Nous le traversons tous également. L'apôtre final est également un gardien. Veuillez tourner vers Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, cet apôtre final doit être, par définition, différent des autres. Tout d'abord, c'est la finale. C'est donc facile. Mais il doit être différent. Ézéchiel 33, voici le gardien, vous savez, de l'avertissement d'Ézéchiel. Nous lirons plusieurs versets, Ézéchiel 33, la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur, quand j'apporterai l'épée sur une terre, si le peuple du pays prend un homme de ses côtes, et le met pour son gardien, si, lorsqu'il voit l'épée venir sur le pays, il sonne de la trompette, et avertit le peuple. Alors quiconque entend le son de la trompette et ne prend pas garde, si l'épée vient et l'emporte, le sang sera sur sa propre tête. Donc, si vous entendez l'avertissement et décidez de simplement le faire sauter, sans jeu de mots, trompette, et juste le souffle, alors votre sang est sur votre propre tête. Il a entendu le son de la trompette et n'a pris aucun avertissement, son sang sera sur lui. Mais celui qui avertit délivrera son âme. Donc, si vous prenez garde et écoutez, vous vous délivrerez. Mais si le gardien voit venir l'épée, ne sonne pas de la trompette, et que le peuple ne soit pas averti, si l'épée vient et prend quelqu'un parmi eux, il est enlevé dans son iniquité, mais je redemanderai son sang au gardien. Donc, si le gardien a un travail à faire et qu'il ne le fait pas, il ne prévient pas et les gens, alors il doit en être tenu responsable. Alors toi, fils de l'homme, je t'ai placé un gardien dans la maison d'Israël, c'est pourquoi vous entendrez la parole à ma bouche et vous les avertirez de moi. Quand je dis aux méchants, au accent circonflexe méchant, tu mourras certainement, si vous ne parlez pas pour avertir les méchants de leur chemin, ce méchant mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang. Je lis cela, mes frères, parce que cela explique mieux que je ne pourrais même m'en approcher, La nécessité qui a été posée au dernier pied du serviteur, de voir les choses dans l'Écriture, et d'avertir les gens, d'avertir le peuple de Dieu de ce qui va arriver. Je fais cela de temps en temps. J'essaie de marcher dans les chaussures d'un autre homme, et je me mets dans ses chaussures et cette nécessité a été posée à mes pieds, que ferai-je? Je ferai la même chose, je vous demande la même chose. La nécessité a été posée à vos pieds. Qu'est-ce que tu ferais? Nous voyons comment Dieu se sent d'avoir une responsabilité envers les autres et de ne pas la suivre, et de ne pas la suivre en son nom. Les conséquences ne sont pas bonnes. Le gardien, le portier, le dernier messager, fouille les Écritures et interprète les mystères et les prévisions. Voilà son travail. Parfois, il prévoit correctement, parfois non. Telle est la nature du travail. Ce n'est pas un territoire de prophète. Dieu le voulait clairement de cette façon, sinon il aurait envoyé un prophète pour faire tout cela. Et en fait, il finira par le faire, mais à ce stade de son plan, il a choisi de ne pas faire cela. Rappelez-vous, un prophète obtient les paroles à la bouche du Christ. Un apôtre est celui qui est envoyé pour interpréter. Grande, grande différence. Grande, grande différence. Travailler avec et sous un apôtre de la fin des temps pour édifier votre foi, frère. Je me dis cela. Permettez-lui de construire ma foi en cette Église de Dieu. Nous avons établi les vérités. Nous avons parlé du gouvernement. Vous regardez autour de vous, où cela se passe-t-il? Où ces choses se passent-elles ailleurs? Permettez à cela de devenir votre ancre, et travaillez avec et sous aux côtés de ce messager de la fin des temps. Dieu a un gouvernement unifié sous un seul corps, et c'est son Église. Le monde chrétien dit que les croyants ou les chrétiens sont un corps de croyants de toutes sortes de groupes et qu'ils croient tous en Jésus-Christ, et qu'il est mort et qu'il y a Dieu, et nous sommes tous frères et sœurs, et nous sommes tous ensemble, et cela constitue le corps de Christ. C'est tout simplement ridicule. Ces organisations ont des idées différentes et concurrentes, ils ont des dirigeants différents, ils ont des programmes différents, ils ont des budgets différents, des publications différentes qui disent des choses différentes. Comment peuvent-ils tous être le corps unifié de Christ de Dieu? Quel genre de corps? Je suppose une sorte de monstre, le monstre de Frankenstein, est-ce? Vous savez, ce serait, je suis factieux, mais ce serait le corps de Dieu. Non. C'est une structure unifiée, un corps unifié. Colossiens, chapitre 1, Colossiens, chapitre 1, encore une fois, j'aurais pu inclure ces choses sous la vérité, l'Église de Dieu ayant la vérité, mais cela vaut la peine d'être séparé. Colossiens, chapitre 1, verset 18, un seul verset, et lui, Christ, est le chef du corps, l'Église. Donc nous voyons que l'Église est une entité unique, un corps, qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, quand toute chose il pourrait avoir la prééminence. Donc, Christ, Jésus-Christ est le chef ou le chef d'un seul corps, d'une seule Église, pas des Églises, du pluriel. Éphésiens, chapitre 4, Éphésiens, chapitre 4, verset 11, nous étions ici plus tôt. Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Il a parlé des apôtres et des prophètes, des évangélistes, et il descend, explique que c'est pour le perfectionnement des saints. Reprenez-le au verset 13, jusqu'à ce que nous venions tous dans l'unité de la foi, remarquez l'unité là, tous ensemble, et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, que nous ne soyons plus des enfants, ballottés et transportés par tous les vents de la doctrine, par le tour de passe-passe des hommes, et la ruse astucieuse, par laquelle ils attendent de tromper. Quand une personne fait partie d'une entité en dehors de la vraie Église de Dieu, et n'est qu'une partie d'une Église qui en est une, Ce monstre de Frankenstein dont j'ai parlé, c'est ce qui se passe. Vous vous laissez emporter par toutes sortes de croyances, et vous pouvez à peu près croire tout ce que vous voulez. Vous pourriez être facilement escroqué, parce que vous n'avez pas un seul corps, un groupe central unifié de croyances, de vérités, soutenu par un gouvernement, soutenu par les Écritures, à suivre. Vous pouvez en quelque sorte simplement vous laisser remporter par l'idée que vous voulez, car c'est juste de la confusion. Ça ne se rejoint pas. Ça ne colle pas ensemble. 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, de qui tout le corps s'est réuni convenablement et compacté par ce que chaque joint fournit, selon le travail effectif dans la mesure de chaque partie, fait croître le corps jusqu'à l'édification de lui-même dans l'amour. Vous voyez donc que cette organisation, cette Église, est décrite comme un groupe unifié qui est convenablement réuni. C'était fait pour aller ensemble. Ça va ensemble. C'est un corps. Nous avons tous des corps. Ils étaient faits pour s'emboîter. Quelle autre organisation, frère, je vous le demande, quelle autre organisation croit même ces choses que je vous dis, que je partage avec vous, et encore moins les enseigne? La réponse est évidente. La réponse est évidente. Je vous ai dit qu'il y a deux façons d'identifier l'Église de Dieu. Elle doit avoir sa vérité et elle doit avoir son gouvernement. Elle doit avoir la vérité de Dieu et elle doit avoir le gouvernement de Dieu. Je vais vous laisser avec un dernier élément important à considérer et il est lié au point précédent au sujet de beaucoup de gens qui rencontrent l'Église de Dieu et ne le savent pas, ou entrent en contact avec des gens dans l'Église de Dieu et ne se rendent pas compte qu'ils l'ont fait. Christ a dit dans Luc 12:32, « Ne crains pas, petit troupeau. Nous y sommes allés tant de fois. N'ayez pas peur, petit troupeau, l'Église de Dieu est petite. C'est un micro-troupeau. Christ a commencé son ministère avec 12 hommes. Il est finalement devenu 120 le jour de la Pentecôte, 3000 ont été baptisés et bientôt, 5000 ont été baptisés. Mais nous n'avons jamais lu nulle part que l'Église de Dieu deviendrait des millions de personnes ou même des centaines et des centaines de milliers de personnes. Nous n'en avons jamais lu nulle part. Monsieur Armstrong a commencé avec une congrégation de 19, 6 d'entre eux étaient sa famille. Très petit. Au fil des décennies, World Wide a grandi à pas de géant, et a fini par grimper jusqu'à 150, peut-être 160 et plus 1000 selon le nombre. Ce ne sont pas des millions de personnes. Ce ne sont pas des milliards de personnes. C'est petit. Ce n'est même pas 200 000. Les églises du monde enseignent les doctrines populaires, elles enseignent les traditions, et tout cela est familier aux gens. Ils sont familiers aux masses. C'est pourquoi ces organisations sont si grandes. Ces fausses églises sont composées de millions voire de centaines de millions de membres, l'Église catholique a 1 milliard, 1,2 milliard, je pense que c'est le cas. Ce n'est même pas proche d'un petit troupeau. Pas même près. Pendant 2000 ans, la plupart ont cherché dans tous les mauvais endroits pour l'Église de Dieu. Ils ont regardé toutes les mauvaises choses, ou façons, pour identifier l'Église de Dieu. La vraie Église de Dieu, est appelée hors de ce monde. Il est appelé hors de ses religions, de ses croyances, de ses coutumes, de ses traditions. Église. Elle-même, signifie ceux qui sont appelés. Il est intégré dans la définition du mot. La taille et les enseignements de l'Église de Dieu ont rendu sa localisation difficile. Il peut voler sous les radars. Les gens peuvent l'oublier. Ils peuvent entrer en contact avec des gens de l'Église de Dieu et ne même pas savoir avec qui ils sont entrés en contact. Nous avons constaté que peu de gens, à ce moment et à ce moment de l'histoire, sont entrés en contact avec l'Église de Dieu. Et nous pourrions en dire autant jusqu'à ce que Dieu nous le révèle. si peu sont entrés en contact avec l'Église de Dieu, mais maintenant, frères, nous savons quoi chercher. Nous savons identifier l'Église de Dieu, nous savons qu'elle est bâtie sur sa vérité, nous savons qu'il a son gouvernement, et cela signifie que nous sommes peu nombreux. Vous pouvez être, cela-bas, vous pouvez être le seul dans votre ville, votre quartier, votre état, votre pays, qui croit ou est chrétien, et croit au mode de vie de Dieu. Cela semble impossible. Pensez à Lot. Il était le seul à Sodome. Pensez à Noé. Il était le seul sur la planète entière. Ce n'est donc pas impossible. Dieu, au moins en ce moment et en ce moment, on n'est pas en grand nombre, au moins pas encore. Son église est petite. Il n'y en a pas beaucoup. C'est peu. Mes frères, je terminerai par ma question initiale. Êtes-vous dans l'église de Dieu? Je connais la réponse, et elle n'est même pas questionnée autrement. C'est une réponse facile. Réponse facile, mais je ne peux pas y répondre pour vous. Vous devez y répondre par vous-même. Vous devez répondre à la question, cette question, la plus importante pour vous-même, et lorsque vous le faites, vous pouvez lui permettre de vous réconforter.